Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Les talibans afghans acceptent un cessez-le-feu. 3 jours de cessez-le-feu, une première depuis 2000 ans, précision de Benjamin Delisle. Nous serons dans un instant en ligne de Pékin à la faveur du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, un sérieux contrepoint au G7 en cours. Jean-Pierre Bemba, acquitté de crimes contre l'humanité, peut-il peser de nouveau sur la scène politique congolaise à 6 mois des présidentielles? Question posée à Christophe Rigaud, rédacteur du blog Africa Rabia. Et puis la bulle écho est consacrée ce samedi à la disparition de Monsanto, du nom Monsanto. En Afghanistan, les forces en présence et corps constitués tentent depuis des mois de convaincre les talibans de déposer les armes, le temps d'un dialogue, de pourparlers, de paix. Le président Ashraf Ghani l'a proposé en février dernier, en vain. Il a renouvelé cette offre jeudi dernier, après une fatwa historique émise par 3000 oulémas réunis en début de semaine. Bonjour Benjamin Delisle.
Bonjour.
Benjamin, les talibans envisagent de respecter un cessez-le-feu, mais de quel cessez-le-feu s'agit-il?
Disons que c'est un cessez-le-feu avec plusieurs conditions. D'abord, les talibans promettent de faire taire les armes contre les forces afghanes, certes, mais pas contre les contingents étrangers. Ne sont pas concernés donc les troupes de l'OTAN commandées par le général américain John Nicholson, le général qui assure d'ailleurs qu'il respectera la trêve voulue par le président Ashraf Ghani, une trêve qui exclut la lutte antiterroriste. Si dans les faits cette lutte se fait essentiellement contre le groupe État islamique et Al-Qaïda, il suffirait d'une étincelle entre des talibans et des soldats de l'OTAN pour relancer les hostilités. Ensuite, dans le communiqué de l'annonce du cessez-le-feu, les insurgés précisent qu'ils n'hésiteront pas à se défendre avec virulence s'ils sont attaqués. Reste que cette trêve semble être la première réponse aux offres de paix du président afghan que le président afghan multiplie depuis fin février. Jusque-là, en guise de réponse, les talibans ont multiplié les attentats meurtriers et ciblé principalement les forces de sécurité, la police ou l'armée. Le dernier date d'ailleurs d'hier soir, quelques heures seulement avant l'annonce, il aurait fait au moins 17 morts.
Merci à vous Benjamin Lully. Peut-être encore un mot ajouter, non.
Tout va bien.
Merci à vous. Au lendemain de nouvelles violences à la frontière entre Gaza et Israël, 4 Palestiniens tués, 620 blessés, le porte-parole du ministre israélien des Affaires étrangères qualifie les manifestants de, je cite, « crétins haineux » et de « Hamas Jugend », référence aux jeunesses hitlériennes. L'Assemblée générale des Nations unies tiendra une réunion d'urgence sur Gaza mercredi prochain. Managua a tout l'air d'une ville cadenassée. De multiples routes sont bloquées par les opposants au président nicaraguayen. Daniel Ortega fait donner la troupe depuis 2 mois. Les résistances sont fortes en ville comme en campagne. 134 morts depuis le début de ce bras de fer, le 18 avril dernier. L'épiscopat a tenté une médiation sans suite jusqu'alors. Quelle issue entrevoir? Élément de réponse avec Alain Musset, géographe et directeur d'études à l'EHESS.
À l'heure actuelle, très très difficile de dire qui peut pouvoir réussir à maintenir un dialogue avec la présidence actuelle et l'opposition. Et l'opposition, elle est très très fracturée. Ce qu'il faut voir, c'est que Ortega avait réussi le paradoxe de passer de marxiste révolutionnaire, avec toute l'idéologie qui va avec, quelqu'un qui s'était tourné vers les secteurs de l'entreprise et vers le clergé catholique le plus conservateur et avec les évangélistes aussi, qui étaient leurs alliés, les alliés de ce pouvoir-là. Donc ça a un peu perturbé tout le monde. Et à l'heure actuelle, même ces alliés-là, c'est-à-dire le secteur des entrepreneurs et le secteur de l'Église, refusent de soutenir ce qui n'est plus soutenable, le résultat c'est qu'il n'y a plus personne. Et malheureusement, il n'y a pas vraiment quelqu'un en face. Il n'y a pas une personnalité qui se dégage et qui pourrait représenter l'opposition, que ce soit à droite ou que ce soit à gauche. On est dans le vide et honnêtement, je ne vois pas comment la situation peut s'améliorer, sauf par le départ. Mais seulement le départ d'Ortega entraînerait un vide. Et ce vide, il n'est pas prêt d'être comblé.
Voilà des propos recueillis par Nadine Epstein. Au dégoût et à la colère des familles de victimes et des organisations de défense des droits de l'homme, il faut opposer des cris de joie des partisans de Jean-Pierre Bemba, acquittés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. L'ancien vice-président congolais pourrait réapparaître sur la scène politique à 6 mois des élections présidentielles. Bonjour Christophe Rigaud.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et rédacteur du blog Afrique Arabia. D'abord, les faits, pour contextualiser, les milices de Jean-Pierre Bemba ont tué, pillé, violé à Bangui, en République centrafricaine, entre octobre 2002 et mars 2003, en soutien aux troupes d'Ange Félix Patassé, troupes alors attaquées par celles du général François Bozizé. Christophe Rigaud, première question, est-ce qu'il peut rentrer, Jean-Pierre Bemba? Est-ce qu'il peut avoir un pays d'accueil?
Alors, dans un premier temps, il va rester en prison puisqu'il est inculpé dans une autre affaire de subornation de témoins avec la CPI. Mais comme la peine maximale encourue en fait dans cette affaire est de 7 ans et qu'il a déjà passé 10 ans en prison, il pourrait retrouver rapidement la liberté. Il faut effectivement qu'il trouve un pays pour l'accueillir. Dans un premier temps, ce sera vraisemblablement la Belgique qui pourrait être ce pays d'accueil puisque sa famille y vit. Mais pour un retour à Kinshasa, c'est un peu plus compliqué parce que le pouvoir n'a évidemment aucun intérêt à voir revenir un adversaire politique à Joseph Kabila. Alors pour l'instant, le ministre de la Justice congolaise ne voit pas vraiment d'obstacle à son retour, mais c'est vrai qu'on peut douter un petit peu de la sincérité de ses paroles. Et puis après, il y a la question de savoir s'il pourra se présenter aux élections. On se souvient notamment qu'il y avait eu des violences importantes en 2007 et c'est vrai que le pouvoir pourrait lui chercher des ennuis judiciaires comme il l'a fait d'ailleurs face à un autre opposant, Moïse Katumbi. Donc c'est vrai que son retour n'est pas encore prévu.
Bon, imaginons qu'il ne rentre pas. Son mouvement, le mouvement de libération du Congo, est-ce qu'il est agissant? Est-ce qu'il est opérationnel aujourd'hui? Avec lui ou sans lui?
Alors, son parti, le MLC, constitue toujours en fait la première force d'opposition à l'Assemblée nationale. Il avait réalisé un excellent score à la présidentielle de 2006. Hein, il avait perdu face à Joseph Kabila avec 42% des voix. Il est encore très populaire à Kinshasa et dans son fief de l'Équateur, à l'ouest du pays. Mais c'est vrai que depuis l'arrestation de Jean-Pierre Bemba en 2008, plusieurs de ses lieutenants ont en fait quitté le navire ou ont même rejoint la majorité présidentielle. Donc c'est vrai que c'est tout de même un parti affaibli qui est aujourd'hui en place, dont on peut difficilement mesurer le poids politique. Par contre, c'est vrai que Jean-Pierre Bemba est toujours populaire et a toujours un certain charisme. Et on l'a vu quand il y a eu des scènes de liesse à Kinshasa hier.
Alors, il y a eu évidemment des scènes de liesse, mais alors, est-ce qu'il peut faire alliance avec l'opposant dont vous parliez à l'instant, Moïse Katumbi, qui est lui en exil, ou encore Félix Tshisekedi?
Alors, qu'il se présente ou à la limite qu'il se présente pas, il peut évidemment peser sur le scrutin. C'est vrai que l'opposition est actuellement très très morcelée, très divisée et en quête de leadership. Alors c'est vrai que voilà, c'est clair que Jean-Pierre Bemba pourrait retrouver hein, sa stature de leader politique. Mais dans une présidentielle à un seul tour, c'est vrai que voilà, il faut des alliances. Pour le moment, c'est un petit peu l'embouteillage. Il y a au moins trois gros candidats d'opposition en liste. Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Faire une alliance avec l'un de ces trois candidats pourrait être intéressant. Par exemple, Moïse Katumbi est assez puissant et assez fort au Katanga et à l'Est. Et puis Jean-Pierre Bemba est toujours assez puissant à l'Ouest et à Kinshasa. Et c'est vrai qu'en s'alliant avec l'un de ces candidats, Jean-Pierre Bemba pourrait potentiellement battre le candidat du pouvoir.
Bon, eh bien, merci à vous. Merci de toutes ces précisions, Christophe Rigaud. Je rappelle que vous animez le blog Africa Arabia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pas tout à fait un contre-sommet, ni l'antécime. Les puissances réunies à Shanghai ont pourtant du répondant. Il y a de quoi faire pièce à l'influence des États-Unis en pleine guerre commerciale. L'Organisation de coopération de Shanghai, qui, outre la Chine et la Russie, réunit des pays d'Asie centrale, Ouzbékistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Kyrgyzstan et deux nouveaux membres de taille, l'Inde et le Pakistan. Bonjour Angélique Forget.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Pékin. Angélique, ce sommet de Shanghai peut aisément donner la répartie au G7.
Oui, hein. Fini le nouveau monde, voici venir le nouveau. C'est en tout cas l'image que veulent donner les participants à ce sommet de Shanghai. Historiquement, c'est une rencontre pour plus de coopération militaire, une sorte de sommet de l'OTAN des pays de l'Est. Mais aujourd'hui, c'est aussi devenu un sommet économique. Les 8 pays participants représentent 40% de la population mondiale, 20% de la richesse de la planète. Et s'ils se réunissent, en fait, c'est pour rééquilibrer le rapport de force Orient-Occident. D'ailleurs, Vladimir Poutine, exclu du G8 depuis 2014 et l'annexion de la Crimée, a déclaré que désormais le sommet de Shanghai ne ferait plus profil bas. Et cette année, les participants sont portés par des relations bilatérales au beau fixe. Il y a ce nouvel axe rouge, cette amitié sino-russe qui se renforce. Un rapprochement aussi entre l'Inde et la Chine. Et il y a surtout cette année un observateur particulier, l'Iran. Depuis le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire, Téhéran cherche des appuis diplomatiques et c'est le rôle que veulent jouer la Russie et surtout la Chine, premier partenaire commercial de l'Iran. Et au cours de ce sommet de Shanghai, Xi Jinping doit d'ailleurs s'entretenir avec Hassan Rouhani et il compte bien occuper la place laissée vacante par les États-Unis.
Merci à vous, Angélique Forget, en direct de Pékin au G7 au Canada. Déclaration et communiqué commun ou pas attendu en fin d'après-midi. Un mot de politique française avec un tract qui fait débat au sein du Parti des Républicains. Ce parti organise ce week-end quantité de manifestations, précédé d'un tract donc dont la prose emprunte à celle du Front National. Embarras de la part d'une partie des cadres de LR. En fin de matinée, le leader des Républicains, Laurent Wauquiez, a dit assumer son contenu. Le titre de ce tract, La France doit rester la France.
La bulle économique, Marie Viénot.
12h41, vous écoutez le journal de France Culture et ce samedi, Marie Viénot, vous vous attardez sur la disparition de Monsanto, du nom Monsanto. Bonjour.
Bonjour, si je vous dis Roundup, Napalm, Mont-810, vous voyez de qui je veux parler, n'est-ce pas? Mais si je vous dis Asgro, Fontanelle, Séminis ou Climate.com, là, plus vraiment. Et pourtant, ce sont aussi des créations de Monsanto. Feu Monsanto, devrais-je dire, puisque Bayer a décidé qu'après la fusion, le nom Monsanto disparaîtrait. Rien d'étonnant à cela, Monsanto était devenu l'archétype de l'entreprise, très connue et très mal vue. Né aux États-Unis en 1901, Monsanto pourra se targuer d'avoir eu en 100 ans d'existence son tribunal ad hoc, avec de vrais juges, de vraies auditions et au final, un jugement non contraignant bien sûr, mais qualifiant son impact négatif sur le droit à l'environnement, à l'alimentation et à la santé. Monsanto a eu aussi son Occupy, un appel à occuper les usines Monsanto dans le monde entier. Il a eu sa journée annuelle de manifestation, ses documentaires à charge, ses parodies et ses très nombreuses chansons, comme celle-ci chantée par Neil Young lors d'un rassemblement anti-Monsanto. Le nom Monsanto disparu, que va-t-il rester de toutes ces actions? Il va falloir revoir les termes de notre mobilisation, reconnaît le Comité catholique contre la faim et pour le développement, mobiliser contre des produits plutôt que contre une entreprise, comme cela s'est fait d'ailleurs pour le glyphosate et les néonicotinoïdes. Ah, et d'ailleurs, qui vend ces insecticides si dangereux pour les abeilles? Bayer. Monsanto peut bien disparaître, ses produits dangereux restent et ceux de ses concurrents aussi. Pour l'association Amis de la Terre, Monsanto c'est aussi une culture d'entreprise, des pratiques de lobbying régulièrement épinglées par les ONG à Bruxelles et l'exercice de ce qu'on appelle l'écriture fantôme ou ghostwriting. Révélé par les Monsanto Papers, oui, Monsanto a aussi eu ses fuites scandaleuses. Cela consistait, pour Monsanto, à rédiger des articles qui étaient ensuite endossés par des scientifiques, moyennant finances, et publiés dans la presse, dans des tribunes, mais aussi dans des revues scientifiques. En rachetant Monsanto, Bayer n'a pas acheté que ses produits. Elle hérite aussi de tout cela, ainsi que de tous les procès en cours et à venir contre l'agrochimiste américain. Le directeur de Bayer France assure que toutes les procédures seront examinées et que Bayer agira avec la plus grande responsabilité. Le pari risqué de la firme allemande, c'est que la mauvaise image de Monsanto ne déteindra pas sur elle. Mais pourquoi avoir pris un tel risque? D'abord parce que Bayer n'avait pas le choix. La concentration dans l'agrochimie était telle que si elle ne rachetait pas Monsanto, elle risquait d'être elle-même avalée plus tard. Et puis, en achetant Monsanto, Bayer acquiert quand même le premier semencier mondial et met la main sur le leader de ce qu'on appelle l'agriculture numérique ou agriculture intelligente. Depuis 5 ans, Monsanto développe en effet une application qui combine la cartographie des sols, les prévisions météo, l'analyse des rendements via des capteurs dans le sol et préconise, in fine, en fonction de ces éléments, l'utilisation de telle semence ou tel produit sanitaire. Le nom de cette application, Climate Field View. Adresse internet, climate.com, traduisez climat.com, comment faire plus générique. Sur le site climate.com, aucune référence évidente à Monsanto. comme si l'entreprise américaine n'avait pas attendu Bayer pour vouloir se faire oublier. Pour les agriculteurs se profile une nouvelle bataille. La propriété de leurs données agricoles et la possibilité qu'ils auront de changer de plateforme sans perdre ces données. Rendre les agriculteurs dépendants et captifs, ce fut la clé du succès de Monsanto. Bayer, avec l'agriculture numérique, aura l'occasion de montrer s'il s'inspire de cette méthode Monsanto ou si, tel un agriculteur maori, il lui a vraiment dit « Monsanto, go away, go
away, go away ». Ainsi se referme la Bulle Écho de ce samedi. Merci Marie Viennot. La météo de l'après-midi, 24 départements de la moitié ouest de la France placés en vigilance orange pour les orages. Cette édition a été préparée avec Emmanuel Faucillon. À la technique, Alex Dang.